L'âme souffre
dans la matière
tant qu'elle n'est pas libre de servir parfaitement à l'évolution. Comme l'ego est son véhicule, elle souffre jusqu'au jour où l'ego a été transformé, c'est-à-dire jusqu'au jour où elle puisse s'unir à l'ego et le dominer. Tant que l'âme n'a pas sur l'ego une domination totale, ce dernier lui fausse compagnie, dans ce sens qu'il ne la sert pas. Et si l'ego ne sert pas l'âme, l'évolution est retardée ou même mise en danger, et cette situation est pénible pour l'âme, car l'âme est la sommation de toutes les expériences passées de l'ego, qui ont servi à la rapprocher de la fusion. Or, au cours de la vie matérielle, l'ego souffre aussi dans son expérience, car son ignorance lui enlève la vision intérieure, de sorte que la souffrance de l'ego devient l'opportunité visée par l'âme qui lui permet d'engendrer en lui une vibration dont il deviendra éventuellement conscient. Mais l'ego est fatigué aussi de la souffrance, et bien que l'âme cherche l'évolution, l'ego cherche la paix et le calme de l'esprit. Pour que l'ego et l'âme s'harmonisent, il est nécessaire qu'ils comprennent les remous de l'âme en lui, lorsqu'ils se font sentir, et qu'ils en comprennent la signification et en détruisent les causes. Ainsi, l'ego, pour détruire les causes des remous intérieurs créés par l'âme, doit se servir de l'intelligence qui lui vient des plans supérieurs de l'évolution. L'ego ne peut comprendre les raisons de l'âme par l'intellect. Il doit se servir de l'intelligence universelle en lui. Mais cette intelligence n'est pas facile à percevoir, car l'ego est miné d'émotions, et ce sont ces émotions qui lui enlèvent la vision intérieure et l'intelligence de cette vision. Pour l'ego, comprendre les remous de l'âme est une tâche absolue, dans ce sens que lorsqu'il s'est sensibilisé à l'énergie de l'âme et que son intelligence supérieure a commencé à se faire connaître, il lui est impossible de retourner en arrière et de reculer vers le passé de son ignorance. L'âme peut alors commencer à être comprise dans ses mouvements, et de là, la vie de l'ego devient plus intelligente et plus harmonieuse. Tant que l'âme souffre, tant qu'elle n'est pas libérée, tant que l'ego n'est pas totalement conscient d'elle, la vie de l'homme est sujette à l'appauvrissement continuel, car l'ego ne peut s'enrichir que dans l'intelligence réelle de son rapport avec l'âme dont il est le véhicule. L'homme, inconscient de l'énergie de l'âme, la subit malgré lui, et il en souffre toute sa vie, car il n'a pas compris l'emprise de l'âme sur lui et le rôle que doit jouer l'ego dans son rapport avec l'intelligence créative, qui cherche à percer la couche épaisse et brumeuse de l'intellect. Un jour ou l'autre, l'ego devra reconnaître l'énergie de l'âme, et c'est ce jour qui commence à poindre à l'horizon de l'homme. L'âme de l'homme désire être libérée, et elle ne peut l'être que si l'ego devient esprit, c'est-à-dire que si le corps mental supérieur de l'homme commence à se développer afin qu'il puisse se produire dans l'homme un échange entre l'intelligence cosmique et l'intelligence vitale de l'homme. Tant que l'homme n'a pas compris son rapport étroit avec l'âme, il ne peut vivre au niveau de son intérêt vital, car cet intérêt est déterminée par son pouvoir créatif et non par son désir égoïste. Or, l'intérêt vital de l'ego résulte de la puissance de l'intelligence créative en lui, selon le rapport entre l'âme et l'ego. L'intérêt vital de l'ego est un processus de vie qui commence là où l'ego perd l'illusion de son libre arbitre, et là où la volonté réelle sert de levier pour contrer les forces de vie qui vont contre sa liberté réelle. L'intérêt vital de l'homme est le point focal de la vie égoïque sur la Terre. Tant que l'homme souffre, cet intérêt vital de l'ego n'est pas possible. Car l'ego ne peut se servir de tout son pouvoir interne s'il souffre de l'énergie de l'âme. De sorte que son intérêt vital ne peut être connu tant que l'harmonie entre l'ego et l'âme n'est pas établie. L'ego est le canal qui doit servir de passage à l'intelligence universelle. Mais ce passage ne se perfectionne que lorsque, au fur et à mesure, l'âme réussit à se faire sentir, soit par le biais de l'intelligence réelle, ou par le biais de la volonté réelle, ou encore par le biais de l'amour réel. Ces trois principes universels doivent être connus et vécus par l'ego, et c'est la pénétration de ces principes qui constitue le canal dont se servira l'âme pour actualiser l'intérêt vital de l'ego une fois sa conscience développée. L'intérêt vital de l'ego, décrit dans ses termes les plus simples, c'est ce que l'ego doit faire dans la vie, et cet intérêt n'est aucunement lié au corps de désir. Cet intérêt vital est la force créative de l'âme dans l'ego et fait partie de l'évolution vers la lumière et non de l'expérience existentielle de l'ego. Tant que l'âme souffre, cet intérêt vital n'est pas réalisé. Et voilà pourquoi l'âme souffre. Lorsque l'ego commence à vivre au niveau de son intérêt vital, l'âme commence à être libérée petit à petit dans son évolution, vers la perfection de son lien avec la matière ou l'homme. Alors, il est extrêmement important pour l'homme de sentir l'âme et de découvrir son lien avec elle, lien qui est, à l'origine, manifesté dans la souffrance de l'âme. L'ego peut alors constater les limites de sa psychologie et commencer à vivre une nouvelle psychologie qui n'est pas soumise à son corps de désir, mais à l'intelligence universelle et réelle en lui. À partir de cette nouvelle psychologie, il peut augmenter son pouvoir de vie et réduire les facteurs d'expérience qui ne sont que le produit d'une intelligence limitée par des émotions retardataires. Si l'ego prend conscience de son intelligence intérieure, de sa volonté réelle, de son amour réel, il se verra élevé en pouvoir de vie, et c'est ce pouvoir de vie qui lui permettra de découvrir son intérêt vital. Mais l'âme est grande, et son pouvoir aussi. L'ego, lui, doit être assez grand pour pouvoir absolument absorber en lui l'énergie de l'âme. Et plus son pouvoir est grand, et plus sa conscience est grande, plus son intérêt vital est grand. L'âme n'a pas de limite, mais l'ego, lui, s'en impose, et c'est ici que se détermine la mesure de son intérêt vital, de son pouvoir de vie. Quand on parle de pouvoir de vie, on parle réellement de pouvoir sur la vie. On parle d'une dimension d'expérience qui n'est aucunement limitée par les facteurs existentiels de l'âme. Or, seulement l'âme peut donner à l'ego ce pouvoir de vie. Et lorsque l'ego, dans sa démarche inconsciente dans la vie, commence à réaliser les remous de l'âme, les indicateurs, les signes qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, c'est à lui de s'apercevoir, de réaliser et de mettre de l'ordre dans ce qui ne tourne pas rond. L'âme fonctionne d'une façon absolue. L'âme fonctionne d'une façon parfaite. C'est l'ego qui ne fonctionne pas d'une façon absolue et d'une façon parfaite. Pourquoi? Parce qu'il est bourré d'émotions qui font constamment interférence avec le processus naturel de sa vie, qui devrait l'amener avec le temps à pouvoir vivre au niveau de son intérêt vital, à pouvoir comprendre les intentions de l'âme, à pouvoir comprendre facilement les intérêts de l'âme, qui deviennent automatiquement son propre intérêt personnel, puisque l'âme de l'ego, de l'âme, c'est le centre même de toute la lumière de l'âme. Mais l'ego est tellement têtu, l'ego est tellement craintif, il est tellement faible, il a tellement peu de volonté, il ne voit tellement pas les choses telles qu'elles sont, que son intérêt vital est constamment retardé, retardé, retardé d'une évolution à une autre, d'une incarnation à une autre. Il faut qu'à un certain moment, l'ego puisse vivre son intérêt vital une fois pour toutes, puis cesser de se réincarner. C'est pourquoi l'âme souffre. C'est pourquoi alors l'ego souffre, parce qu'il y a une relation directe entre la souffrance de l'âme et la souffrance de l'ego. L'âme, elle, essaie de se libérer, c'est-à-dire d'élever la vibration des principes de l'homme, et l'homme, lui, au niveau de son ego, de ses émotions et de ses idées, empêche et bloque constamment ce mouvement de l'âme vers lui. Alors, automatiquement, il y a des interférences dans sa vie qui servent à l'expérience de l'âme, qui servent à raffiner l'intelligence de l'ego, mais c'est souffrant, c'est pénible. C'est une perte d'énergie constante jusqu'au jour où l'ego a finalement commencé à comprendre, commencé à voir clair que ce qui est important pour lui dans la vie, c'est pas sa télévision ou son char, mais c'est son rapport direct avec l'énergie intérieure en lui qui lui donnera avec le temps une psychologie réelle, une psychologie universelle, une psychologie parfaite, pour qu'il puisse vivre un lien absolu avec l'énergie vitale qui provient de l'âme et qui lui permettra, dans le temps, de découvrir ce fameux intérêt vital. C'est ridicule pour les hommes de vivre une vie qui est fondée sur des principes existentiels. C'est absolument ridicule. La vie de l'homme moderne est totalement à l'envers. Les gens ne vivent pas, ils existent. Et ils sont constamment liés, enchaînés aux souffrances de l'âme, puis ils ne le savent pas. Ils ne le réalisent pas. Il existe une relation directe entre les souffrances de l'âme et la vie de l'homme. Entre les souffrances de l'homme et l'incapacité de l'homme de se manifester dans sa vie selon son bon plaisir réel. La vie de l'homme doit être vécue selon qu'il est en rapport avec l'énergie créative en lui, qui ne peut débloquer que lorsqu'il a finalement compris tous les aspects des souffrances de l'âme qui se manifeste en lui comme des mouvements d'énergie dont lui interprète la nature comme étant les souffrances existentielles de sa vie. L'âme est un inconnu pour l'homme. L'âme est un paramètre totalement invisible dans sa vie. Et l'homme est totalement à la merci de ces énergies-là tant qu'il n'a pas l'intelligence de ces énergies-là, tant qu'il n'a pas la compréhension parfaite de ces énergies-là, tant qu'il n'a pas la psychologie supramentale suffisamment développée pour faire descendre sur le plan matériel la volonté nécessaire et l'intelligence nécessaire qui lui permettront d'organiser sa vie à la hauteur de son évolution personnelle. Le temps vient où les hommes doivent comprendre des choses qui ne leur ont jamais été expliquées avant, parce que ces choses ne pouvaient pas être comprises avant. L'homme doit se fixer la tâche de plus en plus profonde de comprendre tous les mystères de son esprit, de comprendre tous les aspects de son être qui sont directement liés à des forces venant de l'invisible qui manipulent son ego et qui assujettissent son ego à une ou à des conditions de vie qui sont absolument insupportables pour un homme conscient. Comment voulez-vous que l'homme vive, que l'homme transpose sa réalité sur un autre plan, s'il n'est pas capable de comprendre que sa réalité est directement sous le contrôle de forces opérant sur d'autres plans? Je parle aujourd'hui des souffrances de l'âme. Demain, on ne parlera pas des souffrances de l'âme, on parlera des souffrances à l'intérieur de l'intelligence de l'atome de l'âme. Alors, l'homme aura toujours des choses nouvelles à apprendre, et plus l'homme apprend des choses, plus son niveau de vibration change, plus son esprit s'altère, plus sa compréhension s'approfondit et plus le mystère s'ouvre devant lui, de sorte qu'il vient un moment dans l'évolution de l'âme, en relation avec l'ego, où l'homme a automatiquement des ailes. Mais l'homme aujourd'hui est à un stade de son évolution où il commence à parfaire ses outils, à raffiner sa méthode d'observation de lui-même, pour en arriver un jour à pouvoir complètement comprendre les aspects les plus infinis de l'esprit de l'homme. Et ces aspects infinis de l'esprit de l'homme font partie du pouvoir de l'homme, et le pouvoir de l'homme est assié dans le feu, dans l'énergie de l'esprit. L'âme, l'inconnu, le mystère, doit un jour se révéler à l'homme d'une façon totale. Aujourd'hui, l'âme se révèle petit à petit à l'intelligence de l'homme. Demain, l'âme se révélera à la vision de l'homme. Comment voulez-vous que l'homme travaille avec l'énergie de l'âme s'il ne comprend même pas les mouvements de l'âme sur les plans inférieurs de l'évolution? Où se situe son expérience égoïque, dont la nature est intrinsèquement intellectuelle et émotive? On a énormément de choses à apprendre, on a tout à apprendre, on a tout à découvrir, et on doit laisser complètement le passé, l'ignorance de notre passé, s'effacer devant la vision de l'avenir, parce que la vision de l'avenir est infinie, de sorte que la compréhension de l'homme vis-à-vis la nature même de son âme est totalement infinie. L'homme comprendra son âme au fur et à mesure que l'homme entrera en harmonie vibratoire avec elle. C'est ça la conscience cosmique. La conscience cosmique, c'est la capacité de l'ego de vibrer à l'énergie de l'âme sous les instances de la direction intelligente du principe infini de l'intelligence universelle. L'homme doit, se doit, de comprendre tous les aspects de son âme s'il veut en arriver à comprendre tous les aspects du pouvoir que lui doit exercer sur un plan ou sur un autre, afin de faciliter l'évolution et de permettre un jour que la Terre devienne une planète favorisée une planète où les élèves de l'esprit seront totalement gratifiés. Quand je dis que l'homme doit un jour vivre une totale gratification de son esprit, je veux dire que l'homme doit un jour être totalement dans le pouvoir de son esprit. Alors, aujourd'hui, au stage où nous en sommes, nous devons comprendre, sentir et simplifier la nature de notre vie à un point tel que tous les aspects complexes de notre vie soient éliminés afin de réduire les nuances psychologiques qui font que notre vie n'est pas notre vie, mais la vie des autres, la vie du monde extérieur. C'est pourquoi les souffrances de l'âme, la compréhension de ces souffrances-là, qui deviennent pour l'homme ces souffrances psychologiques, doivent être comprises, situées et petit à petit éliminées jusqu'au moment où l'homme ne peut plus souffrir. L'homme, un jour, ne doit plus souffrir de rien. Et tant que l'homme souffrira, l'homme sera incapable de faire l'expérience de son intérêt vital, parce que dans la souffrance, qu'elle soit consciente ou inconsciente, l'homme est incapable de promulguer sur le plan où il est en évolution les règles du jeu. Puis les règles du jeu sont les règles du jeu de l'âme, en conformité avec la présence d'esprit de l'ego, qui permet à l'ego de coïncider constamment dans son action les éléments de son vouloir, de son désir, avec les prérogatives évolutives de l'âme. Il faut qu'il y ait une concordance, une relation totale et parfaite entre l'âme et l'ego. Ceci implique que l'ego soit totalement dans la compréhension des lois de l'âme pour que l'âme puisse achever de construire sur le plan matériel ou sur le plan éthérique, le véhicule dont elle aura besoin demain pour le travail que devra entreprendre l'ego sur le plan de la civilisation nouvelle. L'âme a besoin d'un véhicule parfait. L'âme a besoin d'une enveloppe parfaite qui lui permettra de demeurer sur le plan matériel en relation avec le travail de l'ego, sans que l'ego soit obligé de passer par la mort matérielle, pour que l'âme puisse, une fois pour toutes, s'exécuter sur un plan plus subtil, si vous voulez, mais tout de même un plan matériel, et ainsi empêcher l'ego de retourner au monde des esprits pour éventuellement revenir encore sur la terre dans une autre incarnation. Alors, c'est très important de comprendre les souffrances de l'âme. C'est très important de les approfondir, parce que c'est quand on les approfondit qu'on arrive à se connaître soi-même, qu'on arrive à connaître les autres, qu'on arrive à mettre un holà sur toutes les influences qui nous empêchent de nous connaître nous-mêmes et de vivre notre vie à la hauteur même de notre évolution. En tant qu'individu, en tant qu'homme conscientisé, on doit reconnaître notre propre esprit. On doit reconnaître la justesse de notre propre esprit. On doit sentir la perfection de notre propre intelligence. On doit réaliser la perfection de notre propre intelligence. L'homme est rendu à un point à la fin du 20e siècle. Quand je parle de l'homme, je parle d'un nombre d'hommes sur la terre, où les dictées anciennes de vie, les dictées anciennes de la philosophie de vie, de la psychologie de vie, ne tiennent plus debout devant le regard impitoyable de l'esprit conscientisé qui s'occupe de voir parfaitement dans toutes les dimensions et dans tous les miroitements de l'âme en lui. Il est là le jeu. La nouvelle condition de l'homme, elle est là. Elle se situe là et elle ne se situe pas ailleurs que là. Et les hommes le reconnaîtront, le verront un jour, le sauront un jour, parce que un jour les hommes devront déterminer pour eux-mêmes, par eux-mêmes et en eux-mêmes, la direction de leur vie, la qualité de leur vie et le pouvoir de leur vie. La vie de demain, la vie de l'homme nouveau, ce n'est plus une vie comme on la connaissait avant, comme on l'interprétait avant, comme on la voyait avant, comme on la projetait avant. Parce que ça, ce n'était pas la vie, c'était de l'existence. L'homme ancien n'avait aucune idée des souffrances de l'âme. L'homme ancien n'avait aucune idée de la nécessité de les comprendre, n'avait aucun moyen de les contourner, n'avait aucun moyen d'éviter les obstacles inutiles qui font perdre de l'énergie à l'ego et qui empêchent l'ego de développer justement cette volonté, cette intelligence et cet amour universel. Parce que justement l'ego était trop aveugle. Lorsque l'ego commence à voir, lorsque l'ego commence à percevoir, lorsqu'il commence à sentir, lorsqu'il commence à être sûr, puis lorsqu'il en vient à être sûr d'être sûr, l'ego n'est plus berné par l'existence. L'ego n'est plus influencé par les conditions, par les opinions, par les forces extérieures. L'ego entre dans son intégrité. L'ego devient de plus en plus centrique. Son intérêt est totalement augmenté proportionnellement à son pouvoir créatif, et son pouvoir créatif est directement lié à la pénétration de l'énergie de l'âme en lui. Mais si l'ego ne comprend pas que l'énergie de l'âme en lui qui fait son chemin se sert des circonstances extérieures qui deviennent pour lui de la souffrance, si les circonstances extérieures ne sont pas en harmonie avec son intérieur, si l'ego ne comprend pas ce jeu-là, comment voulez-vous que l'ego progresse, que l'ego sorte de l'illusion infinie qu'il poursuit depuis sa naissance? L'homme de demain n'a plus de choix. L'homme de demain n'a plus de choix. L'homme de demain qui sent qu'il se passe en lui quelque chose n'a plus de choix. Il est obligé d'ajuster sa psychologie à une psychologie nouvelle. Il est obligé de voir les choses d'une façon différente. Il est obligé d'agir d'une façon différente. Il ne peut plus se berner. Il ne peut plus se fermer les yeux. Ça prend le temps que ça voudra. Ça prend les années que ça prendra. Mais ça doit se faire. C'est ça l'évolution. Et l'évolution, ça ne se produit jamais comme les gens pensent. La lumière ne vient jamais à l'homme comme l'homme voudrait qu'elle vienne. Parce que justement, ce que l'homme veut, ce que l'homme désire, la façon dont il voudrait que se déroulent les choses, c'est toujours proportionnel à la nature de son ego. C'est toujours en relation avec son corps de désir. L'homme est très apte à se conter toutes sortes d'histoires et à croire à toutes les histoires dont il se compte. C'est pour ça que l'homme doit un jour comprendre que sa souffrance de tous les jours, sa souffrance existentielle, est directement liée au processus de libération de l'âme. L'âme veut sortir un jour du corps matériel à volonté, sans que ce corps soit détruit et soit obligé de retourner à la poussière. C'est le plan de l'âme, c'est le plan universel de l'âme, c'est le plan galactique de l'âme. La mort matérielle est une perte d'énergie pour l'âme. C'est pas normal, la mort matérielle. Naturellement, pour l'homme inconscient, pour l'homme existentiel, pour l'homme de la cinquième race, c'est normal parce que ça s'est toujours produit ainsi. Il y a eu des cas isolés où l'homme ne mourra pas. Les cas, on les connaît. Mais éventuellement, ces cas individuels-là, qui ont servi à donner à l'humanité des points de référence occultes, ces cas individuels-là, un jour, doivent être vécus à une échelle plus vaste. Et éventuellement, à une échelle mondiale. On s'évertue à chercher, puis à chercher, puis à chercher, puis à chercher, puis à chercher.
Chercher quoi? On sait même pas ce qu'on cherche. Au moins quand tu sais ce que tu cherches. Ça a du bon sens. Mais quand tu sais pas ce que tu cherches, tu perds d'énergie, puis tu perds d'énergie, puis tu perds d'énergie, puis tu meurs pareil. Fait que tant qu'à mourir pareil, tu veux te brancher. Mais l'ego ne peut pas chercher. Il est obligé de chercher. Ça fait partie de sa nature. Ça fait partie de la force en lui qui essaie de le travailler, qui essaie de le moudre. Mais un jour, il faut qu'il se réveille. Il faut qu'il sache que sa recherche fait partie des souffrances de l'âme en lui. Fait qu'à ce moment-là, quand il commence à comprendre, il arrête de chercher. Puis là, il commence à réaliser la souffrance, puis à comprendre la souffrance. Il commence à tasser les obstacles, puis à mettre la hache des obstacles, qui sont la cause de cette souffrance-là, qui sont le produit de cette souffrance-là, au niveau de sa psychologie personnelle. Là, à ce moment-là, l'ego avance, il y a un avancement qui se produit, au lieu de sauter puis de faire du jogging sur le même spot pendant 60 ans, mais t'avances. Fait qu'en dedans de 5 ans, puis 10 ans, puis 15 ans, mais t'as avancé un maudit bout. Puis quand c'est le temps, bon, ben, tu changes de plan. Un homme qui comprend les souffrances de son âme, c'est un homme qui comprend les lois de son énergie. Et les lois de son énergie sont des lois fixes. Ce sont des lois qui lui permettent de dépasser constamment sa nature humaine. Ce sont des lois qui lui permettent éventuellement de se servir de l'énergie mentale pour alimenter son corps émotionnel, pour alimenter son corps vital, qui éventuellement maintient en vie et en stabilité harmonique, son corps physique. L'homme fonctionne à partir du mental supérieur. Il ne fonctionne plus à partir de ses reins. Quand je parle des reins, je parle de la tête. Je parle de l'intellect. L'intellect, c'est des reins pour moi. L'homme est bourré d'intelligence. Il est bourré d'intelligence. Mais il en a peur de son intelligence. Puis comme il en a peur, il refuse. Puis comme il refuse, mais il n'y en a pas. C'est aussi simple que ça. L'homme est en contact avec les forces de l'âme. Il a la chance d'apprendre les lois de l'énergie pour transmuter constamment ses corps. Dépasser constamment les limites de sa personnalité, dépasser constamment les illusions de son ego pour en arriver sur un plateau d'énergie suffisamment puissant pour le soulever constamment dans son évolution, pour lui permettre de vivre une vie qui est intégrale, pour lui permettre de vivre une vie qui n'est pas discutable sur le plan des valeurs humaines parce que la vie n'appartient plus à ces valeurs humaines-là. Et tout découle de sa relation intelligente avec ce qui se passe en lui. Tout découle de sa capacité de comprendre les fragments d'expérience de chaque jour qui sont à l'œil aveugle, invisibles, mais qui sont pour lui extrêmement importants parce qu'ils sont vibratoires. La souffrance est vibratoire. Rendu à un certain moment, c'est plus psychologique la souffrance, c'est vibratoire. L'âme, elle est vibratoire, elle passe par vibration dans l'âme. Quand l'homme a dépassé le niveau intellectuel, puis il tombe dans le supramental, la souffrance, elle est vibratoire, et l'homme la comprend en relation avec un plan de réalité qui lui est totalement familier parce que il est dans l'intelligence universelle. Puis l'intelligence universelle, ça comprend tout, puis ça explique tout. Quand l'homme est dans son intelligence universelle, puis il comprend tout, puis il peut tout expliquer, mais à ce moment-là, il commence à comprendre la nature de l'âme, le plan de l'âme, il commence à réaliser son plan vital, puis là, automatiquement, il commence à vivre la vie qu'il doit vivre. Et selon les étapes de temps qui se passent, selon le plan de l'âme, cet homme-là s'achemine vers la lumière, cet homme-là s'achemine vers une évolution qui est totalement créative, totalement scientifique, et qui est totalement à la hauteur de l'humanité, comme elle est à la hauteur de tous les êtres intelligents qui sont en évolution dans la galaxie.
on a deux sortes de problèmes dans la vie.
Des problèmes qui se résolvent tout de suite,
puis il y a des problèmes qui se résolvent plus tard.
Alors, d'abord, on doit comprendre et voir et pouvoir tout compter les problèmes qui se résolvent tout de suite, puis on doit s'appliquer à les résoudre tout de suite. Et ceux qui ne peuvent se résoudre que plus tard, à cause des conditions qui ne nous permettent pas de les résoudre tout de suite, on doit attendre. Mais au moins, on sait que plus tard, ces problèmes-là seront résolus. Alors, l'âme, dans son rapport avec l'ego, crée des conditions qui font qu'aujourd'hui, on a des problèmes, et il y a, parmi ces problèmes-là, des problèmes qui se résolvent, qui peuvent se résoudre tout de suite. Et c'est à l'ego de les résoudre. Et selon la volonté de l'ego, l'intelligence de l'ego, il peut résoudre ces problèmes-là. S'il ne les résout pas, ces problèmes-là, c'est parce qu'il n'y a pas la volonté et qu'il n'y a pas l'intelligence. Ben à ce moment-là, il n'y a rien qu'à attendre, il n'y a rien qu'à souffrir, puis il n'y a rien qu'à les passer, jusqu'à temps qu'il rouvre ses lumières puis qu'il résout les problèmes. Les autres problèmes qui doivent se résoudre plus tard, parce qu'il y a des conditions qui ne sont pas mise à la disposition de l'ego pour les résoudre tout de suite, au moins l'ego sait que plus tard, il y a un target, puis ces problèmes-là vont être résolus. Puis il n'y en a pas plus que ça de problèmes dans la vie. Il y a des problèmes qui se résoudent tout de suite, puis il y en a qui se résoudent plus tard. Mais le problème avec l'homme, hein, avec l'homme, c'est que les problèmes qui peuvent se résoudre tout de suite, il ne veut pas résoudre, il a peur, il a la chienne, il est inquiet. Autrement dit, les problèmes sont totalement liés à ses émotions. C'est ses émotions qui l'empêchent de résoudre ces problèmes-là tout de suite. Qu'un homme ne puisse pas résoudre des problèmes qui doivent être résolus plus tard, ça c'est normal, il ne peut pas anyway. Il n'y a pas les moyens. C'est pas parce qu'il n'y a pas la volonté, il n'y a pas les moyens. Il y a des conditions qui doivent se manifester, qui viendront sur son chemin dans ce temps-là, puis il ne sait pas. Mais les problèmes qui peuvent se résoudre tout de suite, les gens doivent être capables de les résoudre tout de suite sur le champ, ces problèmes-là. Puis il est là le test de l'ego, il est là le facteur qui permet à l'ego de reconnaître s'il a de la volonté réelle et de l'intelligence réelle, ou s'il y a de la volonté fictive, puis de l'intelligence fictive. Quand l'homme commence à comprendre que ses problèmes sont conditionnés par la vibration de l'âme sur son plan de vie, sont le résultat des activités de l'âme sur son plan de vie, l'homme commence à comprendre quelque chose. L'homme commence à s'apercevoir petit à petit qu'il y a un enjeu là. Il y a un enjeu entre l'âme et l'ego. Puis tant que l'ego n'a pas développé l'intelligence et la volonté nécessaire pour briser cet enjeu, pour le vaincre, l'ego doit souffrir. De toutes les façons. L'ego doit comprendre que ses souffrances, quelles que soient ses souffrances, sont le résultat de l'influence de l'âme dans sa vie. C'est très sérieux. C'est très important pour l'ego de comprendre ça. Mais l'ego, tant qu'il n'a pas fait l'expérience, dans le cadre d'une certaine explication réelle de ce qui se passe en lui, est totalement à l'extérieur de cette réalité-là. Il ne peut pas la voir. Il ne peut pas la saisir. Il ne peut pas la comprendre. Mais quand l'ego commence à rentrer à l'intérieur de cette compréhension-là, quand l'ego commence à saisir les nuances
du lien entre l'âme et lui-même, là, il commence à ouvrir ses lumières. Là, il commence à évoluer. Là, il commence à mettre de l'ordre dans sa vie. Et avec le temps, il y a seulement une chose qui l'intéresse, c'est de mettre de l'ordre dans sa vie pour analyser un jour à avoir une vie totalement harmonisée avec l'énergie qui pénètre. À ce moment-là, l'ego n'a plus à souffrir parce qu'il ne peut plus souffrir. L'âme ne peut plus le faire souffrir. Quand c'est rendu que l'âme ne peut plus faire souffrir l'ego, laissez-moi vous dire que la vie est belle. Elle est belle, non pas parce qu'elle est colorée par les illusions de l'ego, mais elle est belle parce qu'elle est rendue facile à cause de l'harmonie qui existe entre l'âme et l'ego, c'est-à-dire à cause du fait que l'ego finalement possède en lui le principe de la volonté et de l'intelligence dont il a de besoin pour œuvrer sur le plan matériel. Tu ne peux pas vivre sur une planète sans volonté, sans intelligence. Tu te fais bardasser à gauche et à droite par des influences planétaires, par des conditions de vie qui te sont totalement étrangères et qui t'arrivent un jour comme un poêle sur la soupe. T'es pogné. Puis regardez vos vies, puis vous allez voir que depuis que vous êtes jeune, vous êtes pogné. Puis avec le temps, vous êtes devenu tellement pogné que ça prend des chocs de réalisation. Ça prend des points de vue totalement au-dessus de vos personnalités. Ça prend des points de vue totalement en dehors de votre intellect pour vous amener finalement à réaliser simplement que la vie est très simple. Que la vie n'est pas compliquée, mais que vous autres, vous la compliquez la vie, parce que vous n'avez pas compris avant qu'il y a une existence et il y a une vie, il y a une relation entre l'âme et l'ego qui détermine la vie ou l'existence selon que l'ego comprenne cette relation ou non. Alors, si vous avez des problèmes qui ont été amenés dans votre vie pour l'expérience de l'âme, c'est à vous en tant qu'ego, conscientisé, de vous réveiller et de vous servir de votre intelligence et de votre volonté réelle pour mettre fin aux obstacles qui nuisent à l'harmonie entre votre âme et vous-même. Tant que vous ne serez pas capable de faire ça, vous allez subir la vie, vous allez souffrir dans la vie, puis quand vous serez assez tanné et assez écœuré, bien, vous mettrez la hache dedans, puis automatiquement, vous changerez votre niveau vibratoire, puis automatiquement, votre plan de vie deviendra de plus en plus rapproché de votre destinée, et vous comprendrez de plus en plus votre destinée, puis vous comprendrez de plus en plus, puis éventuellement, vous comprendrez les autres de plus en plus, puis ainsi de suite. On peut sympathiser avec les hommes à cause de l'ignorance, mais on ne peut pas sympathiser avec l'ignorance des hommes, parce que l'ignorance des hommes doit être un jour testée. Elle doit être mise contre le mur pour qu'elle puisse être mesurée à la lueur de l'intelligence de l'homme. Puis laissez-moi vous dire qu'un homme qui a en lui de l'intelligence et qui regarde l'ignorance dans le monde ne souffre plus de son intelligence, ne souffre plus de sa volonté, ne souffre plus de son amour, ne souffre plus de lui-même. Il ne souffre plus pour les autres. Évidemment, c'est pas facile de se faire dire ça. Mais évidemment, c'est pas facile de se faire dire des choses qui sont à l'extérieur du corps, dans lequel œuvre l'ego depuis des années et des années. On ne peut pas transmuter, on ne peut pas changer, on ne peut pas se transformer sans passer par des changements vibratoires qui nous infligent, en tant que personnalité, en tant qu'ego, des soubresauts.
La volonté de l'âme,
dans la vie, doit être éventuellement réalisée par l'homme conscient. Car toute activité consciente supplante l'idée que l'on peut se faire de la volonté, puisque la conscience, une fois réalisée, nous fait reconnaître l'illusion de notre libre arbitre et nous permet de voir jusqu'à quel point l'homme est mené par les circonstances qui ne sont que des voies d'expérience, qui ne peuvent être évitées que par une volonté réelle, c'est-à-dire par l'actualisation d'une force qui n'est ni dominée par la personnalité, ni sous le contrôle de l'ego. Alors que la détermination est une manifestation dans l'ego de l'intelligence universelle, imparfaitement réfléchie en lui. Elle n'est aucunement volontaire, puisqu'elle ne s'appuie que sur la force irréelle de l'être, c'est-à-dire la personnalité irréelle. La force étant irréelle, car ne provenant pas d'une source supramentale, détachée de l'ego. Le caractère de la détermination de la volonté subjective ne tient qu'au désir que l'on a de l'appliquer, alors que la volonté réelle est une vibration de l'intelligence de l'âme qui s'ajuste avec le temps et permet à ceux qui la vivent de ne pas pouvoir se l'appointer ou se la revendiquer. N'étant pas de ce plan, mais d'un plan supérieur à l'ego. La détermination, son illusion subjective, coïncide avec l'illusion du libre arbitre, qui ne peut être délogée que lorsque l'homme a commencé à percevoir la réalité vibratoire de sa conscience, et de l'effet de cette dernière sur ses sens et son centre de décision. Pour que la détermination ne soit pas faussement interprétée comme étant de la volonté, il faut apprendre à se voir de façon non impliquée dans une action quelconque. Afin de laisser passer en soi l'énergie vibratoire qui dirige et oriente. Le facteur le plus obscur du phénomène de la volonté est toujours la part dont s'imagine avoir l'ego dans l'action. Mais comme l'ego n'est sensible à l'énergie vibratoire que lorsque celle-ci s'est fortement fait sentir, il lui est difficile de s'imaginer que sa volonté irréelle soit l'expression voilée d'une force intérieure non identifiée ou identifiable et par le fait même totalement imperceptible car elle est coloriée par des sentiments et des désirs. De là le phénomène de l'illusion du libre arbitre chez l'homme qui lui offre la détermination de l'acte comme levier servant à appuyer sa conscience subjective, lorsqu'en fait le levier lui-même est appuyé sur une réalité dont l'origine est au-delà du voile égoïque. Le contraste entre la détermination, la volonté subjective, et la volonté réelle ou objective est tellement évident à l'homme conscient que toute compréhension de cette dualité ne peut venir qu'après la destruction des voiles de l'ego. La proportion de subjectivité dans l'acte est toujours mesurable, si vous voulez, selon le degré de conscience de l'homme.
plus l'homme est conscient, plus la détermination devient impossible. Car plus la volonté créative est présente dans la conscience. De là, ce qui est évident à l'homme conscient est simple fantaisie à celui qui n'est pas suffisamment sensibilisé à la vibration intérieure de l'intelligence créative en lui. Tant que l'homme croit déterminer ses actions, c'est que le taux vibratoire de son corps mental supérieur n'est pas suffisant, de sorte que tout rapprochement entre la volonté universelle et la conscience lui est impossible. Il suffit à l'homme de s'imaginer ayant le libre arbitre pour qu'il puisse s'imaginer avoir de la volonté. La nuance est contiguë à son niveau de conscience. La puissance et la domination vibratoire des forces de vie permet à l'homme de vivre de ses forces et de les vivre selon la perfection dont elles sont originaires. Ce n'est pas une domination dans le sens que l'on entend, puisque elles font partie de l'homme. Mais l'ajustement nécessaire de l'ego face à leur pénétration implique que ce dernier doive vivre une prise de conscience qui constitue au début une sorte de domination. Mais la domination que l'ego peut souffrir des forces de vie résulte de leur puissance dans l'homme et non d'un conflit entre elle et lui. La volonté réelle de l'homme est proportionnelle à sa capacité d'absorber cette force, force qui fait partie de lui et qui cherche à s'identifier parfaitement avec lui, jusqu'au jour où son ego et la force intérieure s'unifient et créent dans l'homme la vraie individualité, où l'on ne retrouve plus l'illusion de la détermination de l'acte, mais la réalité de la volonté de la force qui engendre l'acte par le biais de son ego, réduisant ce dernier à un effet de la force sur la personnalité qui engendre à son tour une forme quelconque d'acte créatif et conscient. L'acte conscient ne provient jamais du rapport entre l'ego et la personnalité, mais de l'esprit universel agissant sur l'esprit de l'homme par vibration, afin de déterminer par l'action ce qui doit servir à l'évolution. Cet acte est volonté et n'a rien de la détermination ou de volonté subjective fondée sur le corps de désir ou l'appétit de l'ego. La volonté de l'homme réel est aussi détachée de son ego que sa personnalité réelle. Tant que la fausse personnalité ou la vision que l'on a de soi-même se propose de remplir un rôle quelconque, l'ego voudra déterminer son action, car ceci fait partie de l'illusion qu'il a de son rôle en tant qu'être faussement libre. Mais l'homme vraiment libre n'a pas besoin de fausse liberté pour se réaliser pleinement, dans l'intention de sa pleine conscience, dont il tire toute chose, y compris la vie. Si la personnalité de l'homme inconscient cherche à vouloir maintenir, pour le compte de l'ego, l'illusion d'une volonté irréelle, il suffit à la force vibratoire de se manifester chez l'homme
Ils réalisent alors que ce qu'ils croyaient auparavant n'était réel que dans la mesure où ils y croyaient. Toute action vue comme étant originaire de l'ego n'appartient qu'à l'arbitre inconscient de l'ego. Et toute détermination ou fausse volonté est le produit de l'illusion de l'ego dans son rapport avec la personnalité. L'homme conscientisé sait que toute énergie intelligente passe par son mental supérieur. Dans le cas de l'illusion du contraire, le mental inférieur, siège de l'intellect, parrainé par l'ego, s'approprie les mouvements discrets de l'âme et se construit une vision de lui-même suffisamment grande et consistante pour que l'homme en soit totalement convaincu, c'est-à-dire totalement impressionné. C'est cette impression de lui-même qui lui fait vivre un état d'esprit incapable de surmonter la réalité si évidente une fois le voile levé. Seule la pénétration graduelle de l'intelligence supérieure dans l'homme et de son action-force peut ouvrir les yeux de l'homme et lui faire comprendre qu'il est construit de toute autre façon qu'il n'est prêt à l'admettre. Seule l'action-force lui fait comprendre la vraie volonté en lui, selon la vibration de la lumière, ce qui illustre très bien le dilemme de l'homme qui croit avoir la détermination lorsqu'en fait il ne subit que les effets imparfaits de l'énergie sans en réaliser la perfection, qui ne peut être vécue que lorsque l'ego est harmonisé à cette force intelligente et interne qui fait partie de l'être supérieur dans l'homme. Mais l'homme est faible, car ses émotions sont fortes. C'est pourquoi il n'a aucune volonté réelle. Si l'homme vivait sa vie comme il se doit, il verrait que la vie engendre en lui toutes les conditions nécessaires à la créativité de son ego, et que ce dernier n'a qu'à suivre l'intention universelle en lui pour découvrir que sa sensibilité à la vibration de l'intelligence intérieure suffit à lui donner la volonté réelle dont il a de besoin pour vivre une vie pleine et créative. Tant que l'ego est bloqué par des émotions, la partie supérieure du mental humain ne peut servir à engendrer un plan d'action volontaire qui a pour but d'élever la qualité de vie de l'homme et de créer en lui un climat véritable de paix et d'harmonie entre l'ego et l'âme. Mais l'ego est si fortement prisonnier de ses émotions que toute tentative de l'âme de l'apprivoiser résulte dans une expérience difficile pour l'ego, c'est-à-dire une souffrance quelconque. Si l'ego était à découvert, s'il était ouvert à l'énergie de l'âme, son expression dans les moindres détails de la vie quotidienne réfléchirait une volonté, c'est-à-dire un dessein de l'âme dans sa vie. L'âme n'y est pour rien des erreurs que commet l'ego, puisqu'elle n'a pas encore de pouvoir sur lui. Ce n'est que lorsque l'union est suffisamment grande qu'elle possède sur lui la force qui lui fait réaliser sa volonté réelle. Une fois qu'il a connu cette volonté réelle, la vie devient facile, car, aidé de la force en lui et de l'intelligence qui engendre cette force, Il peut organiser sa vie selon un mode qui le rapproche de sa destinée, qui ne peut être connu et vécu que lorsque l'âme a le pouvoir sur lui et que son intelligence est au-delà de la raison intellectuelle. Bien que la volonté réelle ne se reconnaisse que par le travail de la pénétration de l'énergie dans l'ego, cette même volonté coïncide avec la réceptivité de l'ego. C'est pourquoi, même si un ego désire la volonté, ce n'est que par l'ajustement et le développement du corps mental supérieur que ceci est possible. Car le développement de ce corps mental supérieur est justement le résultat de la transformation de l'émotivité en énergie mentale. L'homme ne peut faire ce travail par lui-même, car il ne dispose pas de l'énergie de vie. Elle le traverse simplement. Ce n'est que lorsqu'il a appris les lois de la conscience intelligente qu'il comprend les lois de la volonté et qu'il peut vivre de cette volonté sans rien perdre de ce qu'il croyait perdre à tort, c'est-à-dire son libre arbitre. En fait, le libre arbitre est une des plus vastes illusions de l'homme, car il coïncide avec la coloration de la volonté, alors que cette dernière n'est que lumière active et créative dans l'homme qui a su apprendre à vivre avec elle. L'état spirituel de l'homme engendre en lui une fausse opinion de sa réalité et de la réalité opératoire derrière les voiles de l'ego. L'homme conscient se rend bien compte que toute allusion à un devenir quelconque n'est qu'une manipulation en lui de l'énergie, afin qu'il comprenne un jour qu'il n'a qu'à se laisser guider par la vie, par la force créative et active de son intelligence interne, agissant conjointement avec les forces de l'âme, pour ouvrir en lui un champ de force qui l'introduira avec le temps à des modes de réalité qui ne sont palpables qu'à celui qui a appris à vivre sa vie dans le cadre d'une volonté universelle, c'est-à-dire selon le plan d'action de l'âme dans le monde de l'ego, par le biais du canal créé. Lorsque l'homme de la terre aura connu la volonté réelle, rien ne lui sera impossible, car cette volonté coïncidera avec le maximum de ce qu'il doit et peut faire dans un temps donné. Alors l'homme pourra dire qu'il est bien dans la vie, car la vie sera constamment en intervention créative en lui. Son corps mental supérieur servira alors les forces de vie, tandis que ses principes inférieurs permettront d'actualiser, selon leurs conditions, les effets nécessaires à la réalisation totale. Un tel homme sera parfaitement équilibré, car il ne lui sera plus possible d'être à l'extérieur de son état de vie réelle, dont la volonté sera la marque la plus grande, tant elle sera unie à son intelligence réelle. L'homme sera alors réel, et tout homme réel est plus grand que l'homme ancien. La volonté réelle est un phénomène encore très obscur. L'homme, malgré toute son expérience, n'a pas encore l'idée de ce que veut dire volonté réelle. Il a encore l'impression de ce qu'il a connu dans le passé au niveau de son expérience. Mais il n'a pas encore la réalité fixée dans son esprit supérieur parce que le corps mental n'est pas encore développé. Bien qu'il ait acquis depuis longtemps. L'idée et l'illusion d'une volonté créative. Il n'a pas encore acquis la compréhension profonde de l'illusion de cette volonté. Et toute réalisation constante provenant de la réalité profonde du lien entre l'ego et l'âme détruit nécessairement les fondations anciennes de la croyance subjective et psychologique de l'homme. C'est pourquoi le phénomène de volonté est un phénomène encore irréalisé ou non réalisé par l'humanité, et c'est pourquoi, d'ailleurs, l'homme de la Terre aujourd'hui n'a sur la matière aucun pouvoir. Justement parce que il n'a aucune volonté. Mais l'évolution ou l'involution a voulu permettre que l'homme dépasse le stage animal afin que se manifeste sur le globe une race supérieure à l'animal, race qui devrait et pourrait à l'avenir, transcender les limites de la matérialité et effectuer sur des plans supérieurs, en relation avec des forces nouvelles, des constructions nouvelles. Mais lorsque l'on avance dans le temps, lorsque la conscience grandit dans une race, lorsque l'homme passe d'un niveau de constatation à un autre, il se doit que tout ce qu'il a conçu auparavant soit bouleversé afin que soit remplacé ce qu'il a connu par quelque chose d'autre qu'il ne connaît pas et dont il n'a aucune idée de la puissance. C'est pourquoi il est important à l'homme nouveau de bien s'apercevoir, petit à petit, graduellement, qu'il n'a pas de volonté réelle, que sa volonté est réellement un aspect inférieur du jeu qui se joue entre son ego et sa personnalité, à l'insu de sa conscience réelle. Lorsque l'homme aura découvert cette chose, lorsque l'homme aura saisi cette réalité, il ne pourra plus vivre sur la terre comme il a vécu auparavant. Il ne pourra plus construire sur la terre comme il a construit auparavant. Parce que, dans le passé, l'homme avait construit pour son bon plaisir. L'homme avait construit pour son bien-être, mais à l'intérieur des limites de sa propre vision. Tandis que dans l'avenir, l'homme devra construire, en raison d'un plan d'évolution plus grand que la vision limitée de sa raison, de sorte que l'homme, devenu créateur à cause, justement, de son pouvoir de volonté réelle, ce qui sera construit appartiendra à un temps qui aujourd'hui ne peut être même conçu par l'homme inconscient. Le phénomène de la volonté est expliqué afin de permettre à ceux qui ont la capacité et le pouvoir éventuel de lire ce qui est dit et de voir ce qui est dit, de les rapprocher d'eux-mêmes, de cette partie d'eux-mêmes qui est au-delà de l'ego et qui peut se lier à l'ego afin que l'ego, en retour, se lie
parfaitement à la personnalité, pour qu'il se forme dans l'homme un axe, c'est-à-dire un canal, permettant à l'âme de déverser dans l'ego, et permettant à l'ego de maintenir, sur le plan matériel, une harmonie totale dans sa conversion avec la personnalité. Le phénomène de la volonté réelle est un phénomène très profond. C'est un phénomène qui ne se comprend pas par l'intelligence. C'est un phénomène qui ne se comprend pas rationnellement. C'est un phénomène de vie, faisant partie du pouvoir interne de l'homme, n'appartenant pas à l'ego de l'homme, et n'étant pas entaché par la personnalité de celui-ci. Lorsque nous disons que l'homme n'a pas de volonté, nous disons que l'homme est incapable de saisir la véritable partie de lui-même qui met en branle les forces de vie, passant par ses principes, et capable de manifester sur le plan où il le désire la conscience universelle et la création qui en découle. Tant que l'homme, dans sa subjectivité, de par sa volonté subjective, de par l'illusion de son ego, de par l'illusion de son libre arbitre, ne pourra pas sentir le réel, il ne pourra pas comprendre, réaliser que la volonté qu'il possède n'est qu'un paravent, n'est qu'une facette diminutive de la volonté cosmique. Autant la volonté subjective et illusoire appartient à l'illusion de l'ego, autant la volonté universelle, objective, appartient à la réalité de l'âme. Et lorsque l'ego et l'âme s'unissent, cette volonté plonge l'homme dans une dimension d'expérience qui dépasse à la fois les sens et la matière. Cette volonté, dont l'origine est ineffable parce qu'elle fait partie des principes universels dans l'homme, rencontre en lui l'intelligence et l'amour. Il est évident que la volonté de l'homme, la volonté subjective de l'homme, ne rencontre en lui ni l'intelligence universelle, ni l'amour universel. Si nous avons décidé de discourir sur le phénomène de la volonté, si nous avons décidé d'éclaircir un phénomène qui est obscur parce que il n'appartient pas à l'homme inconscient, c'est parce que nous savons que l'homme de l'avenir aura besoin de comprendre les aspects psychologiques de sa vie subjective qui bloquent la manifestation en lui de cette volonté. Alors que l'ego est incapable de saisir l'ineffable parce que l'ego est limité par les sens, la sensibilité intérieure de l'ego, la partie participation en lui de l'énergie de l'âme lui permet tout de même de sentir la vibration de ce principe de volonté. Et c'est par l'actualisation en lui de ce principe que les remparts de son illusion s'écroulent et que la vie nouvelle commence à couler dans ses veines, lui apportant petit à petit, difficilement, à chaque jour, de plus en plus de réel,
jusqu'au moment dans sa vie où il est totalement immersé dans le réel et ne peut plus en sortir. Autant il est important à l'ego de saisir la réalité de son illusion, autant il est important à l'âme de pénétrer en lui lorsque ce dernier saisit l'illusion de son libre arbitre et de sa volonté subjective. Parce que l'ego qui ne saisit pas cette illusion ne peut pas avancer dans le champ de la lumière, car la lumière doit, avant de pénétrer, engendrer en lui suffisamment de force pour qu'il puisse supporter son passage. C'est pourquoi je dis que le phénomène de la volonté réelle, est un phénomène unique dans l'homme. Et l'homme qui vit ce phénomène, qui le comprend de plus en plus, s'aperçoit que sa vie qu'il a vécue auparavant n'a aucune valeur. Elle n'a aucune valeur dans ce sens qu'elle n'était pas réelle. Effectivement, elle avait une valeur dans ce sens qu'elle était expérientielle. Mais dans le sens de sa réalité profonde, elle n'avait aucune valeur parce qu'elle n'était qu'une période entre le point zéro de l'incarnation et le point où l'homme devait reconnaître qu'il est fils de la lumière. Ce n'est que lorsque l'homme reconnaît qu'il est fils de la lumière, qu'il reconnaît en lui une autre volonté, une volonté supérieure à celle de son ego et supérieure à celle qu'il croyait depuis des années posséder. Le fils de la lumière ne peut plus se servir de sa volonté illusoire, parce que justement, il n'a plus la conscience qu'il possédait. Or, son ancienne volonté subjective, celle qui avait servi à l'expérience de l'ego, ne peut plus servir au dessein de l'âme, puisque celle-ci maintenant a décidé d'illuminer l'ego, de le rendre serviable, afin qu'il puisse participer à son plan de vie, sur le plan matériel où il est en évolution. Et le Fils de la Lumière doit reconnaître que toute intervention de l'âme sur l'ego est une intervention naturelle, bien qu'au début, elle puisse être perçue comme une intervention pénible, parce que le corps mental n'est pas suffisamment développé et que le corps mental inférieur et l'émotivité engendrent encore dans l'ego des formes qui l'empêchent de voir parfaitement. Tant que l'homme de la vieille race n'a pas mis les pieds dans le nouveau terrain de l'évolution, il est sujet à l'illusion de sa volonté subjective. Mais dès qu'il a commencé à mettre les pieds dans le nouveau terrain de l'évolution, cette volonté subjective s'efface petit à petit et se voit remplacée par une autre force, une autre volonté qui détermine une action nouvelle, une action différente,
une action qui est à la fois pour le bien-être de l'ego et le bénéfice de l'âme, mais qui est engendrée sur les plans de l'âme avant de descendre sur le plan de l'ego. Et l'ego conscientisé réalise ceci et se voit à la fois au seuil d'une porte qui s'ouvre sur d'immenses possibilités dont il ne connaît pas pour le moment lui-même l'étendue. Tant que l'ego n'a pas saisi l'illusion de sa volonté subjective, tant qu'il n'a pas vu dans les moindres mouvements de sa vie quotidienne que son action provient d'un plan autre que le sien, tant qu'il n'a pas saisi une force en lui qui dirige son action, il n'a pas encore compris le principe de la volonté objective et réelle en lui. Et dès que ce mouvement s'est amorcé, qu'il s'est fait de plus en plus sentir, l'ego au début devra en subir un peu la domination. Et cette souffrance sera pour lui l'événement essentiel de sa vie. Car cette souffrance, cette perception, cette rencontre entre une volonté supérieure à la sienne, plus grande et plus forte que la sienne, créera en lui une énergie de plus en plus puissante qui deviendra un jour sa volonté. Énergie qui deviendra un jour la force dont il se servira pour atteindre des niveaux supérieurs de vie et créer sur ces plans supérieurs de vie des conditions nouvelles et maximales qui sont aujourd'hui voilées à la cinquième race de l'homme. L'homme de demain ne peut plus se mettre la tête dans la terre. Son ego ne peut plus refuser de voir ce qui est réel. Et si son ego refuse de voir ce qui est réel, la réalité devra passer au-dessus de sa tête. Autant la volonté réelle procède de la puissance de l'âme, autant il est facile à l'âme de verser dans l'homme la puissance de son énergie. Mais il ne va que de l'ego de reconnaître qu'il y a plus à sa volonté que ce qu'il a bien voulu par le passé lui affecter. L'ego a beau désirer le meilleur des mondes, il doit vivre les conditions qui le mèneront à ces mondes. S'il refuse, par orgueil, d'admettre ce qu'il peut sentir, comment pourra-t-il vivre d'une force qui n'est pas à la hauteur de son inconscience, mais à la hauteur de sa conscience universelle? L'ego veut tout avoir, mais ne rien donner, justement car il ne possède rien de véritable. Sa pauvreté étant grande et sa richesse souvent trop éloignée de son désir. L'homme de demain, le fils de la lumière, l'homme qui sait devra reconnaître qu'il y a dans l'homme plusieurs hommes,
qu'il y a dans l'homme plusieurs niveaux de conscience, qu'il y a dans l'homme plusieurs personnalités, qu'il y a dans l'homme plusieurs aspects, et que tous ces aspects, que toutes ces facettes de l'homme coïncident avec une réalité, la réalité de l'âme, d'où se manifeste la volonté universelle. Bien que l'homme puisse harmoniser sur le plan de sa vie matérielle un grand nombre d'aspects, il doit un jour harmoniser à la fois sur la vie matérielle et sur les autres plans de vie tous les aspects qui constituent son expérience totale. C'est pourquoi le Fils de la Lumière doit vivre une période de préparation, une période où il se voit diminué dans son ego, où il se voit bafoué dans sa personnalité, pour regagner éventuellement le statut universel de son âme, statut qui est la fondation même de la perfection de son ego et de l'équilibre de sa personnalité. Afin que l'homme, visible et invisible, se marie et que la volonté de l'âme se manifeste à travers cet homme. C'est pourquoi le phénomène de la volonté subjective et la réalité de la volonté objective doit être compris, saisi par l'homme, car il est de toute importance que le phénomène de la volonté soit une fois pour toutes résolu sur le plan de l'homme, afin que s'ouvrent pour lui les portes de l'éther. Car c'est dans le monde de l'éther que l'homme pourra se servir de sa volonté créative et créer des formes qui serviront ensuite sur le plan matériel. Et c'est aussi sur le plan matériel futur que le Fils de la Lumière pourra engendrer suffisamment de force à cause de sa volonté réelle pour déterminer sur le plan matériel des conditions de vie aptes à élever la conscience de la planète et à créer sur la Terre une civilisation neuve, une civilisation dont les principes découleront de la loi universelle dans l'homme, de la loi qui, manifestée dans l'homme, deviendra le gage de son statut universel, que l'on a appelé Fils de la Lumière. Le phénomène de la volonté est obscur et demeurera obscur pendant un certain temps. Mais l'obscurité de ce phénomène s'élèvera petit à petit, car la conscientisation de l'homme nouveau se fera graduellement, et l'homme verra qu'effectivement, ce qu'il avait cru au début, concernant son libre arbitre, sa volonté personnelle, sa volonté subjective, n'était que des voiles cachant à son ego la réalité d'une volonté très puissante, dont il se servira plus tard et dont il tirera plus tard
le maximum des bénéfices.